RMC Running,
Geoffrey Charpie.
Salut à tous et bienvenue dans RMC Running, le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Avec le marathonien de l'équipe de France, le recordman du monde, le vacancier, c'est Yoann Durand. Salut Yo.
Salut à tous, salut monsieur,
ça va? Bah, c'est à toi qu'il faut demander ça, la France entière s'inquiète, tu es blessé. Non.
Alors, la France s'inquiète sur l'état de ta cheville, parce que... Bon. Tout le monde est inquiet là.
Bon, on va prendre 10 secondes. Voilà, je vais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages gentils et bienveillants depuis ma chute sur le 400 mètres lors du record du monde. Ça va mieux. Ça va mieux. Je remets des chaussures, mais je peux toujours pas courir. Voilà. Et toi, il y a rien de grave?
Le seul homme qui se fait une cheville sur une piste d'athlète,
c'est quand même le. Alors non, le tu signer. Vas voir, on en a parlé avec notre invité du jour avant de commencer la visio, avant de commencer l'émission, ça arrive pas qu'à moi, Yoann.
Ah bah alors.
Exactement.
D'accord, ok, bon.
Exactement.
J'aimerais connaître le second.
Hein. Eh ben, tu vas voir. On va en parler avec notre invité, c'est Camille Brouillasse qui est avec nous. Merci beaucoup d'être en studio. On va l'accueillir dans un instant. Et j'en profite, Yoann, aujourd'hui c'est samedi, c'est jour de sortie de l'épisode. Et ton athlète Benoît Boutron, il a un an de plus. Voilà, on lui souhaite forcément un joyeux anniversaire. Et il a 22 ans, t'imagines?
Et voilà, il a pris sa journée, 22 ans, il est parti à Paris.
Eh oui, tu veux lui souhaiter quoi?
Plein de records, plein de belles perfs et que le podcast continue à marcher. Et surtout qu'il ait une grande idée pour essayer de faire encore une grande fête comme on l'a fait pour le record.
Oui, au bout d'un moment, il va falloir dormir, arrêter de perdre des points de vie, Yoann. Et puis se concentrer sur toi, voilà, et ta carrière, avec forcément le marathon de Valence qui va arriver à la fin de l'année. Encore une fois, merci à toute la communauté RMC Running pour les chiffres qui augmentent chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous suivre. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de téléchargement de podcasts et à laisser des commentaires. Forcément, ça nous aide à grandir et ça fait plaisir à l'ego de Yoann Durand. RMC Running reçoit cette semaine une ancienne basketteuse devenue une véritable championne de trail. Camille Brouillasse, récente vainqueur de la Maxi Race à Annecy, est avec nous en studio. Elle s'envole d'ici quelques semaines pour les États-Unis pour participer à la mythique Hard Rock 100. Son histoire, son entraînement, ses objectifs. Celle qui a terminé deuxième de la Diagonale des Fous en 2023 nous dira tout et vous allez voir, son histoire est passionnante. La séance de la semaine, Yoann, elle sera consacrée au profil de Camille et c'est elle qui va tout nous expliquer. Voilà, tu vas être un petit peu au repos cette semaine car au-delà d'être une athlète de haut niveau, Camille, c'est également une professeure de yoga. Et oui, Yoann, voilà, ta passion.
Alors, si t'attendais que je te donne des conseils pour le yoga, effectivement, vaut mieux que Camille en parle.
Camille va tout nous dire, elle va nous expliquer les bienfaits de ce sport pour la course à pied avec des exercices simples à réaliser. Yoann, toi qui es très souple, forcément, ça va t'aider. Alors, on peut enfiler nos baskets, attacher nos lacets, on va borner en montagne, on va faire du vélo, on va sortir les skis et le maître Yodu va faire la position du chien tête en bas.
Salut à tous!
Je m'appelle Camille Brouillasse, je suis coureuse d'ultra trail, longue distance, en montagne.
Elle est en train de réaliser une énorme performance en prenant la troisième place ici sur la CCC, l'ami Camille Brouillasse.
Ce que j'adore sur le trail et la longue distance, c'est vraiment de partir à l'aventure, de partir découvrir où tu sais pas ce qui va t'arriver.
Bah ouais, on va voir si les gens me répondent.
Et puis j'ai commencé l'athlétisme sur piste, première année de kiné. Et c'est comme ça que j'ai découvert la course à pied, on va dire.
Camille Brouillasse, grande vainqueur de la Maxi Race en 11h00 et 56 secondes.
Ladies and gentlemen, somebody, we want to hear you.
Je suis ma sœur kinésithérapeute et professeure de yoga. J'ai découvert le trail sur l'île de la Réunion.
Elle va pleurer, Camille. Elle est au finish.
Je préfère la qualité par rapport à la quantité. Et donc j'ai fait beaucoup de basket.
Ah, une magnifique musique de basket dans un podcast course à pied. On est bien, on va être très bien avec Camille Brouillasse qui est avec nous en studio. Salut Camille.
Salut tout le monde.
Tu vas bien?
Ouais, ça va.
Bon, magnifique. Ça t'a rappelé des souvenirs un petit peu, ce petit montage?
Ouais, sympa, sympa.
Tu t'es remise d'Annecy parce qu'on le rappelle, tu viens de gagner la Maxi Race du coup à Annecy. Encore félicitations. Tout va bien?
Bah ouais, merci, oui, tout va bien, la récupération s'est bien passée, donc, prête à partir aux États-Unis.
Yoann, est-ce que tu connais un petit peu le profil, la carrière de Camille?
Vite fait, hein, je suis pas spécialiste de trail, mais effectivement,
pas encore.
Je connaissais de nom, oui, pas encore, mais je connaissais bien évidemment de nom et de réputation, mais je n'aurais pas été capable de citer toutes ses performances, et effectivement,
il y en a.
Oui, voilà, c'est ça, en checkant un peu tout, je me suis rendu compte que ça fait presque 10 ans qu'elle... Qu'elle fait des perfs de quand même très 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 haut niveau. Ouais.
On va évoquer avec toi ton histoire, ton entraînement, Camille, mais j'ai envie de t'interroger tout de suite. Est-ce qu'il y a une histoire, est-ce qu'il y a une victoire qui t'a plus marqué que d'autres dans ta carrière pour l'instant?
C'est pas une victoire, une course qui m'a marqué le plus, c'est mon premier 100 miles que j'ai fait à La Réunion. Comme je le dis, j'ai découvert le trail et l'ultra trail longue distance à La Réunion en 2018 où je termine 5e sur une sur ouais, une grosse aventure quand même, à traverser l'île de la Réunion, c'est long et c'est très dur.
On commence toujours nos podcasts avec, avec cette question envers nos invités. Pourquoi tu cours, Camille ? J'ai même envie de te dire, pourquoi tu cours autant ?
Bonne question, je cherche la réponse encore, je ne l'ai toujours pas trouvée. Non, moi, c'est l'aventure qui me fait vibrer, c'est-à-dire que c'est la longue distance, oui, parce que bah, tu ne sais pas ce qui va t'arriver, c'est un peu ce que vous avez dit là dans le débrief, et c'est l'aventure qui me parle, donc c'est les belles traces, et traverser une île de la Réunion où tu ne sais pas exactement par tous les états où tu vas passer, tu ne sais même pas si tu vas finir quand tu es au départ. Bah ouais, je trouve ça vraiment chouette, donc c'est ça qui m'anime.
Johan, partir faire un petit trail à la Réunion, toi qui aimes le soleil, tout ça, ça te tente pas ?
Ah, ouais, si. Bah, pour le coup, je pense que c'est vrai que la Réunion, c'est quand même une terre de trail, quoi. Et c'est vrai que ça m'étonne pas qu'elle se soit piquée pour ce sport là-bas, parce que c'est mythique, c'est un lieu qui se prête parfaitement à ce genre d'effort. Et donc, ouais, non, franchement, ça me chaufferait bien d'y aller un jour et de découvrir le trail là-bas, tu vois. C'est totalement différent de... Moi, je connais bien les Pyrénées pour m'y entraîner à fond romeu, de faire un peu de dénivelé et tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un autre côté, un autre aspect sur des chemins qui sont encore plus techniques, encore plus difficiles. Sur la Réunion, ouais.
Et ben écoute, je vais te donner le numéro de Camille, vous allez vous mettre en relation. Elle va te donner les bons plans pour aller dans les Alpes. Toi, pour aller dans les Pyrénées, je pense que vous devriez bien vous entendre.
Voilà, parfait.
Bon, mais tout de suite, on va apprendre à mieux te connaître, Camille.
RMC, le CV de coureur.
Ça ne se fait pas, Camille, mais quel âge tu as ?
31 ans.
31 ans, et depuis quand tu cours ?
En fait, je cours depuis que je suis toute petite parce que je fais du basket et en fait, mine de rien, en entraînement, l'été. Juillet-août, toute la prépa physique, on l'a fait quand même à pied et sans le ballon. Alors, c'était très dur pour mes copines de basket, mais pas du tout pour moi. Moi, j'aimais beaucoup courir et j'aimais beaucoup tous les entraînements où, pour le coup, le basket, on court après un ballon, on sait pourquoi on court. Et là, c'est vrai que la prépa, tout le monde trouve ça un peu chiant, entre guillemets, parce que, puis en plus, on était jeunes et moi, j'adorais ça, en fait. Donc déjà... Voilà, ça fait longtemps que je cours et après j'ai fait quelques années de piste en commençant dans le club d'athlétisme du Coquelicot 42 à Saint-Etienne, là où je faisais mes études de médecine. Et voilà, après je suis partie à Grenoble, donc j'ai aussi fait de la piste à Grenoble et j'ai même commencé à La Réunion sur la piste.
Non.
Ouais, j'ai fait quelques.
Donc il y a des pistes à La Réunion aussi.
Il y a des pistes à La Réunion, ouais. Il y a des. Ouais, on avait un joli stade, un tartan bleu là où d'ailleurs, quand même, pas mal d'athlètes viennent s'entraîner pour chercher un peu le soleil. On avait souvent Kevin Mayer qui venait en décathlon. Donc, c'était super chouette. Après, voilà, pour découvrir l'île, il n'y a rien de mieux que d'aller dans les sentiers parce qu'il y a toute une partie qui est accessible que à pied à La Réunion, notamment le cirque de Mafate. Et les compétitions, globalement, c'est beaucoup, beaucoup de trail. C'est un peu le sport national là-bas, comme vous l'avez bien dit. Et sur piste, il y a un peu moins de compétitions, un peu moins de concurrence. Voilà, je m'y retrouvais un peu moins. Et du coup, voilà, c'est là-bas que j'ai switché un peu entre les deux.
Ok. Aujourd'hui, tu cours combien de fois par semaine ?
Ça dépend des semaines. Ça, c'est hyper irrégulier. En fait, l'entraînement en ultra, il est quand même assez... Enfin, pour ma part, en tout cas, il est assez irrégulier parce qu'on a des grosses phases d'entraînement, qu'on appelle ça des gros blocs. Alors, la distance que je vais courir, par exemple, là, c'est 160 km, mais je fais jamais 160 km à l'entraînement. C'est un peu souvent la question qu'on me pose. Mais par contre, ça arrive de la faire en 3, 4 jours, 5 jours ou sur une grosse semaine, à arriver à en faire 2. Quand on part en stage, Salomon, c'est des semaines à 200, 250 km à pied. Et après, du coup, il y a des grosses périodes de récupération, que ce soit après ces blocs, après les courses, comme là, après la Maxi Race, j'ai fait 11 heures de course. Il faut quasiment 10 jours, 10-11 jours de récupération. Il n'y a pas vraiment de règles, mais moi, c'est à peu près là où je recommence à avoir envie de remettre les baskets. Et on fait la récup tranquille, un peu sur le vélo, un petit peu à pied, mais très peu. Donc c'est hyper variable et c'est ça qui est chouette.
Est-ce qu'il y a des records perso dont tu es fier ? J'ai vu, je sais pas si c'est une erreur, mais notamment un 10-20 sur 3000 mètres.
Ah oui.
C'est pas mal.
C'est vrai. Je sais, j'ai plus aucune notion, mais c'est vrai que
j'ai vu un sub 38 au 10K aussi.
Ouais.
Mais tu penses que t'as pris plus de plaisir lors des championnats de France en plus ?
Ouais.
Et tu penses que t'es plus fier de tes chronos sur route ou sur trail actuellement ?
En fait, en trail, on parle pas trop de chrono, ouais. Parce que c'est impossible à comparer. Alors oui, sur l'UTMB, par exemple, maintenant, on commence un peu à parler de en dessous de 20 heures chez les garçons, des choses comme ça, mais ça dépend tellement des conditions, du terrain, de la météo, de la concurrence, que c'est très compliqué de parler de chrono. Si je suis plus fière... Ouais, j'avoue que sur piste, je suis quand même... j'étais quand même contente de mes chronos. Après,
spécialiste de 3000 mètres, ouais, au ouais, début quand t'as commencé.
C'était un peu la seule chose que je savais faire sur la piste. mais voilà, je savais que j'allais assez vite plafonner. En fait, c'était, ouais, je pense que c'est pas là où j'aurais pu exceller sur des distances comme ça. Mais franchement, c'était vraiment chouette.
Ok. Est-ce qu'il y a une séance de fractionné ou une séance tout court en running que tu adores? Ta séance préférée?
Mes séances préférées, j'appelle même pas ça des séances, nous c'est des sorties, moi ouais. Ce que j'adore c'est des sorties longues en fait, à basse intensité, à découvrir de nouveaux sentiers, des nouveaux endroits, à partager si j'ai l'occasion bah, avec soit des copains d'entraînement, soit d'autres copains, et ça c'est, ouais, ça, c'est mes meilleurs entraînements.
Et une séance détestée, celle que t'aimes pas?
Bah à plat, j'en avais à refait plat, un peu ouais, pour une course aux États-Unis, parce que pour le coup aux États-Unis il y a des courses très roulantes, notamment la Western States qui a lieu dans 2 semaines en hein, Californie, ouais. Qui est assez connue, et ouais, pour le coup là il faut réapprendre un peu à courir vite, donc voilà, là c'était des longs fartleks un peu plus sur le plat, et ouais, ça c'est plus pour moi.
T'as pas repris goût?
Non, pas du tout.
Camille Bruyat est donc avec nous dans RMC Running cette semaine, merci beaucoup d'être avec nous. On l'a dit en introduction, tu viens donc de remporter la Maxi Race d'Annecy, pour rappel c'est 94 km, plus de 5000 mètres de dénivelé positif, mais avant la prochaine échéance qui t'attend, la fameuse Hard Rock 100, est-ce que tu as pris cette course, déjà félicitations, et puis est-ce que tu as pris cette course comme une sorte de sortie longue de dossard préparatoire?
Eh bien merci, ouais, je l'ai pris, oui, c'est la dernière préparation, on refait un peu un check de tout ce qui est aspect alimentaire, parce que vous imaginez bien que pour courir aussi longtemps, il faut quand même être bien rodé sur l'alimentation. Et puis là, en l'occurrence, je sortais de... t'as parlé, Johan, tout à l'heure de Font-Romeu. Je sortais de 2 semaines d'entraînement à Font-Romeu, que je connaissais pas du tout. Enfin, j'étais allée faire une formation kiné.
C'était la
du
première
sport.
Fois que tu faisais Font-Romeu, ouais.
Ouais, bah, en tant qu'athlète, ouais, j'avais été pour une formation kiné du sport qui avait lieu là-bas. Et, ouais. Et là, bah, du coup, c'était hyper chouette du coup, de rencontrer tous les athlètes sur route qui s'entraînent là-bas, ouais. De partager avec eux, puis de voir qu'on fait le même sport qu'est la course à pied, mais que c'est deux mondes complètement différents. Donc, c'était assez rigolo. Et voilà, donc j'ai fait deux semaines de bloc là-bas, et l'idée, c'était de valider ce ouais. bloc, ce dernier bloc en France pour, à la Maxi Race. Et voilà, chose assez validée, mais du coup, je suis arrivée un peu avec une pré fatigue qui était... que j'ai bien senti quand même, ouais. Sur la course.
Tu remportes la Maxi Race, donc forcément, on imagine qu'à Font-Romeu, ça a porté ses fruits. Mais du coup, tu t'es senti fatigué sur la course?
Ouais, en fait, je savais pas trop à quoi m'attendre. L'idée, c'était vraiment de recaler un peu tout ce qui était nutrition, entraînement, valider ce bloc. Mais oui, en fait, l'idée de Font-Romeu, c'était aussi d'aller s'entraîner un petit peu en altitude, parce que la Hard Rock 100 que je vais faire là mi-juillet, c'est une course qui, le départ, est à 3000 mètres d'altitude dans le Colorado. Okay. Donc, et on passe, là, je vais potentiellement passer plus de 24 heures entre 3000 et 4002 mètres d'altitude. Donc, c'est quand même un facteur qui n'est pas négligeable à gérer. Mmh. Et donc, voilà, du coup, un peu d'altitude à Font-Romeu. Et oui, je pense que ça a été un facteur aussi qui a fait que je suis arrivée un petit peu fatiguée à la Maxi Race. Et voilà, mais c'est aussi bien de faire un 95 bornes comme ça, un peu fatigué pour préparer un 160 km, parce que les allures elles vont être encore plus lentes, et ça va être encore plus dur, donc voilà, non, c'était hyper intéressant.
On va en parler dans un instant du coup de cette fameuse course qui t'attend, mais Johan, toi qui passes beaucoup de temps à Font-Romeu, quand tu vas en altitude, quand tu vas dans les Pyrénées là-bas, tu sens que les bénéfices de Font-Romeu se font voir immédiatement dès que tu reviens sur du plat?
Non, pas forcément, ça dépend de combien de temps tu restes en altitude, ça dépend de ce que tu mets comme intensité quand tu es là-haut, de plein de paramètres qui font que c'est vraiment variable pour tout le monde. Mais par contre, là où je me reconnais, c'est vrai que des fois, tu as des sensations, tu manques un peu de fraîcheur, ça répond, ça va vite, mais par contre, t'as pas des bonnes sensations. Des fois, tu cours vite sans avoir des bonnes sensations, et ça, c'est vrai que l'altitude, les descentes, elles sont... ça peut arriver d'avoir ce type de sensation, mais comme elle l'a dit, elle, son objectif, la Maxi Race, c'était juste de retravailler, de faire une course comme ça de préparation. Et nous, sur la route, c'est pareil, quand on fait des semis dans la préparation d'un marathon, bah, tu les intègres dans ta prépa et généralement, bah, tu cours avec des sensations qui sont difficiles. Donc faut pas s'affoler et il faut garder juste l'idée de faire une bonne course, de travailler ses ravitaux, de travailler cette gestion là et puis après mais par contre c'est vrai que c'est intelligent, je sais pas si à Font-Romeu elle a pu faire de l'hypoxie, mais de préparer son corps à justement ces haute altitude, parce que là à Font-Romeu on est à 1008, mais là on parle sur l'Hard Rock de passage à 3000 voire un petit peu plus, donc effectivement là on est déjà dans la très haute altitude. Et est-ce que tu as bossé en hypoxie à Font-Romeu dans la salle ou tu t'es contenté juste de l'altitude de Font-Romeu?
Ouais, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant ce que tu dis sur les sensations, parce que moi c'est la première fois que je faisais ce genre de stage en altitude, donc merci pour tes retours. <Yann. rire> Et ouais, j'ai eu la chance de pouvoir faire quelques sessions à 5000 mètres dans la chambre d'hypoxie à très basse intensité.
Ouais, c'est ça.
Voilà, l'idée, c'était vraiment d'être là-bas pour découvrir ça aussi avec les autres athlètes, du coup, parce que tu as plusieurs tapis de course, en fait, et puis moi, des fois, je faisais sur vélo. Donc, avec les marathoniens, là, c'était vraiment rigolo. Et puis, apprendre à se connaître, en fait, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir comment le corps, il réagit à 5000 mètres. Voilà, j'étais déjà montée au Mont-Blanc, mais c'est vrai que c'est pas du tout la même, même chose. Et puis tout ça est monitoré, en fait, dans les chambres hypoxie. Donc, on apprend vraiment à voir sa fréquence cardiaque, la saturation, prise de lactate.
Ça fait pas peur quand t'arrives avec tous ces moniteurs? Je sais pas, on te dit tu vas apprendre à courir à 5000 mètres, ça peut être un peu inquiétant au début.
Ouais, non, après, moi, je l'ai pris vraiment comme pour le fun, quoi. Ouais. C'est vrai que c'était vraiment des séances de récup qu'on faisait là-bas. Et non, en vrai, c'est... Ça fait pas peur, c'est une salle plus ou moins comme là, on est en studio où j'ai un casque et plein de micros partout, tu vois. ça pourrait presque me faire plus peur que d'être monitoré, c'est une salle hypoxie. Donc non, c'est vraiment adapté. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Yoann, mais c'est une salle normale, en fait. Tu te sens pas du tout à 5000. Hein.
Non, t'es pas enfermé, donc c'est pas claustro non plus. Ouais. Donc, mais c'est vrai que c'est de la simulation d'altitude. Donc l'avantage de ça par rapport à aller faire un pic où tu vas monter à 4000, c'est que du coup t'as quand même les données de cardio, de saturation des muscles en oxygène, de ta saturation aussi en oxygène, qui fait que t'es ultra calibré sur les allures et tu ne peux pas te tromper. C'est-à-dire qu'il y a le scientifique qui est là. Et si jamais il voit que ça dérive un peu, que ça soit au niveau du cardio ou au niveau de la saturation en oxygène, paf, il te baisse l'allure du tapis de course ou du vélo, tu vois, pour vraiment rester dans une zone très ciblée. Et là, pour le coup, le travail, il est vachement intéressant parce que tu peux pas sortir de cette salle cramée. Alors que si tu vas faire, un mont à 3500, 4000, tu montes en haut d'un pic, bah là c'est un peu pas one again, mais pas loin, tu vois. Donc c'est l'avantage de ces données scientifiques et de ces datas là. Ouais.
Camille, Yoann, vous étiez en train de parler d'allure. J'ai envie d'aller tout de suite du coup sur l'événement qui t'attend, Camille, la Hard Rock 100. Pour rappel, c'est un ultra trail organisé chaque année en juillet dans le Colorado aux États-Unis. Ticket uniquement sur tirage au sort, si je me trompe pas. Donc forcément, j'imagine que tu avais essayé de postuler un petit peu sur les années précédentes. Et là, cette année, c'était bingo. Est-ce que c'était performances sportives qui t'ont permis d'avoir ce ticket ou c'est vraiment le pur hasard?
Alors, moi, ça faisait 3 ou 4 ans que je mettais un ticket, donc il voit un petit peu si t'as déjà postulé. C'est assez spécial, hein, c'est un tirage au sort, mais là, je pense un petit peu tronqué, entre guillemets, d'accord, parce que moi, j'avais déjà mis mon ticket. Il y a 2 ans, j'y étais allée pour faire l'assistante pacing. Là-bas, on a le droit aussi d'avoir quelqu'un qui court avec nous pour François Daen, il y a 2 ans, sur la Hard Rock 100. Donc voilà, il me connaissait un petit peu. Après, il y a eu les performances que j'ai fait. Et maintenant, ça commence à se savoir qu'ils choisissent 2-3 élites hommes, 3 élites femmes toutes les années. Donc voilà, maintenant, c'est un petit peu officiel. Avant, ça l'était pas trop. Ouais. mais je trouve que ça reste quand même de la loterie, parce que quand tu fais ton planning de course, tu vois, nous, on réfléchit un petit peu au planning de course en octobre, novembre, décembre, là, pour voir ce qu'on veut faire l'année d'après. Et tu construis avec des courses de préparation, comme là, la Maxi Race, mais tu sais toujours pas si tu vas être prise.
Pris ou pas, ouais.
Voilà. Donc je trouve que c'est quand même cool. Ça laisse un petit... quelque chose de... de suspense. Et voilà, les courses aux États-Unis, il faut toujours un ticket. Donc la Western, c'est faut aller gagner une course soit aux US, soit moi j'avais eu sur la deuxième place à l'UTMB.
Okay.
Ça dépend des années, c'est pareil. Ils nous sortent ça un peu au dernier moment. Hop, il faut aller chercher des tickets qui sont pas forcément faciles à avoir. Donc voilà, là c'est la loterie effectivement.
Johan, j'ai pas vu ton nom sur cette course de 160 km et 10 000 m de dénivelé positif. C'est normal, c'est une erreur administrative.
Ouais. Oui, non, mais j'ai pas été tiré au sort. Qu'est-ce que tu veux, j'ai pas de chance.
Ah oui, d'accord. C'est tu veux qu'on appelle la Fédération française d'athlétisme, peut-être non, qu'on va réussir à cocher.
Ils ont assez à s'occuper, donc laisse-les tranquilles.
Et magnifique. Donc du coup, on l'a dit, plus de 160 km, 10 000 mètres de dénivelé positif. Est-ce que, quand on prépare cette course, est-ce qu'il y a un objectif de place ou c'est juste finir ce trail qui est peut-être le plus beau du monde ou peut-être le plus dur?
Ouais, ben c'est sûr que le premier objectif, c'est comme je dis, on peut pas gagner un ultra si on le finit pas, quoi.
Ouais, donc, c'est vrai, déjà.
Déjà, le premier objectif, c'est de finir. Et j'aime bien aussi dire que c'est un peu une équation à résoudre. Là, pour le coup, bah il y a quand même la haute altitude sur laquelle, même si dans les Alpes, on a un peu de. Mais par exemple, le point de départ, c'est le point le plus haut de l'UTMB, par exemple, pour une course qui parle à tout le monde.
Ah oui, d'accord. Ok.
Donc, ouais. Je trouve que c'est quand même ça, un point déjà à bien s'acclimater. Et puis après, voilà, c'est d'arriver déjà physiquement en forme, essayer de ne pas être blessé, de ne pas se blesser pendant la course, d'arriver à manger tout le long. Il y a tellement de facteurs à régler, à résoudre petit à petit que ouais, le premier objectif, c'est d'arriver sur la ligne d'arriver à peu près en un morceau. Et voilà, et après, s'il y a de la concurrence, des choses comme on arrive aussi des fois à retrouver, par exemple, moi, la fin de l'UTMB. Oui, je passe de la troisième à la deuxième place. Ça me remet dans la course et dans la compétition. Mais du kilomètre 50 au kilomètre 120, j'étais pas du tout dans un esprit de compétition. C'est à la fin quand tu vois que tu peux aller. Ouais. Ça dépend vraiment de la configuration de la course. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. On y va d'abord pour un finir, peut-être plus pour un chrono en fonction des autres éditions. On essaie de calibrer voilà, tel ravitaillement, on va mettre combien de temps. Et après, on essaie de voir si on peut aller gagner la course. Mais c'est vrai que ça arrive pas en premier objectif.
C'est quoi qui t'angoisse le plus? C'est l'altitude? C'est la durée de la course? C'est la stratégie de nutrition?
Honnêtement, ouais, là, l'altitude va quand même faire partie des facteurs. Et en fait, ça, c'est lié à l'alimentation. C'est-à-dire qu'en altitude, c'est vraiment compliqué de s'alimenter. On se déshydrate beaucoup, donc il faut boire un peu plus. Et tout ça, il faut l'assimiler. Alors, l'assimiler pendant 5-10 heures, ça va. Mais pendant plus de 24 heures, voilà, je ne sais pas trop. Et puis ça, c'est des tests qu'on peut pas faire.
Oui, là, sur la Maxi Race, tu n'as pas pu tout tester, je suppose.
J'ai pu tester, mais déjà, j'étais pas en haute altitude. Ouais. Et j'étais pas au-delà de 11 heures. Donc, il y a vraiment un gros gap en fait entre ce qu'on est capable de faire sur un 100 bornes et enfin moi je trouve et ce qui se passe sur 160, c'est pas les mêmes allures, donc c'est plus de temps dehors, c'est une nuit en plus, c'est donc il y a la nuit aussi à gérer, il y a et voilà, et là en l'occurrence l'altitude. Donc ouais, je suis vraiment intriguée par le fait d'arriver à m'alimenter autant de temps à haute altitude.
Pour préparer cette course, je te suis beaucoup sur Strava, j'ai vu que tu avais fait beaucoup de vélo. C'était une volonté de ta part ou ça a toujours été quelque chose d'important pour toi de croiser les entraînements, comme le répète Johan chaque semaine?
ouais, moi je fais beaucoup d'entraînements croisés et uniquement en vélo de route, clairement. Parce que déjà, j'adore le vélo, donc je pense qu'il faut choisir un sport croisé qu'on aime.
Johan, t'adores la natation, non?
Non, c'est ça, c'est pas celui que j'ai choisi.
Et puis, pour faire le volume, en ultra, enfin, ceux qui le font que à pied, pour éviter les blessures, tout ça, et puis même pour... moi, ça m'amuse aussi de varier l'entraînement et de changer un petit peu de sport. Donc, ouais, ça fait partie intégrante de mon entraînement, le vélo.
D'accord. On parlait de la ligne d'arrivée, forcément, qui est importante dans un ultra-trail comme ça, mais il y a la ligne de départ. Il faut arriver à 100% physiquement. L'année dernière, tu as été un petit peu blessé, il me semble. Aujourd'hui, ça va? Tu es totalement rétabli?
On croise les doigts, mais ouais.
Tu peux nous rappeler ce que tu avais eu? C'était quelque chose, c'était un peu compliqué. J'ai vu des termes médicaux, mais j'y comprends rien.
Ouais, je vais te faire sort avec le nom. Voilà. Mais ouais, l'année dernière, j'ai été diagnostiquée d'une pathologie qui s'appelle l'endofibrose de l'artère iliaque externe. Les cyclistes pros se reconnaîtront parce que c'est une pathologie quand même qui touche 20% des cyclistes.
Ok.
Professionnel.
D'accord.
C'est voilà, c'est une et puis du coup c'est la seule, en fait c'est l'artère qui se réduit de son calibre avec une fibrose qui s'installe. voilà, un coup de pas de chance. Et puis, bah, c'est quand même lié aux heures d'entraînement. C'est, en vélo, c'est beaucoup lié à la flexion de hanche. Mais au final, quand on fait des montées, nous, en ultra, de très longues, bah, des flexions de hanche, on en fait quand même un paquet.
Ouais.
Mais c'est un sport, le vélo, qui a beaucoup plus d'années que le trail running. Donc... Donc voilà, et du coup, j'ai décidé de me faire opérer l'année dernière bah pour, ouais, parce que ça fait hyper mal en fait en côte à haute intensité.
C'était où exactement ?
En fait, l'artère iliaque, donc elle est au niveau du nombril, moi c'était à gauche dans le ventre, et les douleurs, c'est des crampes et des grosses douleurs dans toute la jambe.
Ok.
Voilà, donc plus on augmente en intensité, plus on augmente dans la durée, moins le sang y passe, et en fait, ça fait... Bah, c'est un peu comme si, quand t'as plus de jambes à la fin d'un énorme sprint, enfin, voilà, j'ai jamais trop vécu ça, mais... sauf que là, bah, c'est que d'une jambe, et puis voilà, ça apparaît, moi à la fin, ça apparaissait sans énorme intensité, quoi. Ouais. Donc c'était vraiment plus gérable de prendre du plaisir à l'entraînement et en course, donc voilà, du coup, chirurgie, et puis le temps de se remettre, tout ça.
T'as arrêté combien de temps ?
Bah, c'est quand même 6 semaines de repos total.
Ok.
Parce que ouais, ils ouvrent quand même l'artère, donc il faut quand même pas se louper sur la reprise. Et voilà, et après la reprise, c'est hyper bien passé. Voilà, donc c'est ça s'est fait.
Johan, ça te parle, cette blessure ?
Non, j'avais jamais entendu parler. Par contre, je connaissais pas cette pathologie-là. Mais par contre, c'est sûr que derrière, quand on se fait opérer, il faut être super prudent. Tu vois, on parle souvent de progressivité et tout dans le podcast, mais c'est surtout vrai aussi après les blessures. Et il faut pas chercher à vouloir rattraper le temps perdu, parce que derrière, ça peut être de nouveau du temps perdu.
Camille, tu es également kiné, même si tu n'exerces plus aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Est-ce que ta profession t'a
pour
aidé
pour ta cheville?
Oui,
c'est pour ça que tu veux l'avoir.
Si je pouvais prendre un rendez-vous, il faut que je refasse un strap, et là je ne sais absolument pas comment y prendre. Voilà, si quelqu'un m'écoute, il faudrait que quelqu'un m'aide. Mais donc du coup, tu as commencé à exercer ta profession à Grenoble, ensuite tu es passé à La Réunion, c'est là où tu as découvert le trail. Est-ce que tu sens que la profession de kiné, tes compétences t'ont aidé pour surmonter un petit peu cette douleur, cette blessure?
Oui, le métier de kiné, je pense qu'il t'apprend. Ben, je pense que dans tout le domaine de sport et de la course à pied, ça t'apprend quand même un peu à te connaître, clairement, à savoir t'auto-rééduquer un petit peu sur des choses. Enfin, moi, je trouve que surtout ça te sert à savoir ce que t'as, et si c'est grave et que tu peux continuer, ou si c'est grave et que tu peux pas continuer, ou si c'est quelque chose que tu peux gérer. Mais des fois, le cordonnier est le plus mal chaussé, c'est-à-dire qu'il faut parfois savoir laisser de côté son métier et aller voir quelqu'un de neutre. Donc ça, moi, je trouve beaucoup, beaucoup d'avantages. Il faut juste des fois savoir déconnecter et se dire non, là, j'ai besoin d'un avis extérieur pour me soigner et aller chez kiné, chose que des fois, on a un peu du mal à faire.
Aujourd'hui, tu es sponsorisé par la marque Salomon, et sur le site de l'équipe entière, tu es décrite comme la fille cool par excellence, pas de prise de tête, toujours la banane et un moteur d'enfer. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Ouais, c'est pas mal, Johan. Hein.
C'est bien vendu, ça. Ouais,
c'est pas mal.
Ils sont bons quand même.
Très, très bon, Salomon, on les embrasse. Ça va, tu te reconnais dans cette description?
Oui, c'est sûr que je kiffe ce que je fais, je sais pourquoi je fais. Enfin, je pense qu'en ultra, il faut vraiment choisir les courses qu'on veut faire. Par vraie volonté, il faut pas que ce soit imposé par la marque, il faut pas que ce soit imposé par quelqu'un, et parce que c'est long et c'est des longues distances, la préparation est dure et longue, donc si on sait même pas pourquoi on va prendre le départ de cette course, je trouve ça, enfin pour moi, ce serait vraiment compliqué, donc ouais, franchement, je prends plaisir à l'entraînement, je prends plaisir vraiment avec les copains à partager plein de sorties et
à boire des bières.
À boire des bières.
Parce que moi j'ai lu que t'étais le pendant de François Daen. Donc
disons que j'ai fait des études de médecine, quoi, donc on a quelques restes de temps en temps.
Voilà,
mais oui, je trouve que c'est quand même un sport où il faut se faire plaisir, parce que quand t'es dans le, globalement, je pense dans tous les sports, hein, de toute façon, pour durer dans le temps et pour enchaîner les saisons, il faut aussi qu'il y ait du plaisir, mais je trouve que l'ultra trail, ça, enfin ouais, moi je me reconnais beaucoup, parce que c'est vraiment un environnement qui est en montagne, qui est loin de tout code, en fait. Ouais. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime bien.
On a beaucoup parlé de ta future course, mais Camille, et puis je vais le dire pour les auditeurs et pour toi, Johan, même si tu en as parlé en introduction, Camille, c'est un palmarès quand même incroyable. J'ai pas pu mettre toutes tes victoires, donc j'ai choisi de façon personnelle les plus prestigieuses. Vainqueur de la Saint-Élion en 2019, du Lavaredo Ultra Trail en Italie en 2021, deuxième à l'UTMB en 2021, vainqueur des Templiers en 2022, ça ne s'arrête pas, vainqueur du Cap Town en 2022, deuxième de la Diagonale des Fous en 2023 et vainqueur de la Maxi Race en 2024. Est-ce que tu es d'accord pour... Est-ce que déjà on est à peu près bon sur, le... sur les chiffres, sur les dates?
Ouais, je crois que tu sais mieux que moi.
On a bien bossé, Johan. Est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est peut-être l'UTMB 2021 qui t'a fait rentrer dans une nouvelle dimension, cette deuxième place?
Ouais, ouais, oui. C'est sûr que l'UTMB, c'est l'événement phare. C'est un peu notre championnat du monde à nous, Ultra Trailer. Il y a des championnats du monde gérés par la Fédération Française d'Athlétisme, enfin, notamment en équipe de France, mais qui n'a pas de longue, longue distance. Donc nous, ouais, je dirais que l'UTMB, c'est un peu notre championnat du monde. Et c'est sûr qu'il y a une retombée médiatique qui est hors norme. Enfin, même moi, en fait, je ne me rendais pas du tout compte. Je faisais cette course, c'était mon deuxième ultra trail de 160 bornes. J'y arrivais comme une enfant en me disant, mais bon, déjà, on va essayer de rallier l'arrivée, ça sera bien. Ouais. Et puis en fait, bah ouais, une belle journée où tout est aligné, où tout se passe bien. Où... Et oui, c'est sûr que ça a été un peu en tremplin, surtout pour me dire, ok, en fait, c'est cette distance-là que je veux aller explorer, et c'est cette distance-là où j'arrive à m'exprimer le mieux, parce que je cherchais encore un peu, suite aux années Covid, c'est vrai que j'avais refait des distances plus courtes, parce que je trouvais que pour se préparer à un ultra, si on ne savait pas si ça allait avoir lieu, c'était hyper compliqué pour moi.
Et oui, c'était 2021.
C'était, ouais, 2020, il y avait une course sur trois qui était annulée, dont des ultras, donc tu te préparais, tu ne savais même pas si tu allais courir. Et pour moi, c'était assez dur, donc j'ai refait des distances plus courtes où je me suis amusée aussi. Et c'est vrai qu'à la fin de l'année 2020, je me disais, bon, bah, peut-être que je peux revenir un peu sur des distances plus courtes.
Mais et puis, en fait, non. Deuxième derrière Courtenay, c'est comme si tu avais gagné en vrai. Honnête ici, voilà, on t'accorde la victoire.
Tu le prends comme ça?
C'est baf. Non, mais c'est vrai que oui. Et puis là, elle confirme d'année en année, de course en course. Que... Et puis oui, c'est sûr que ce jour-là, moi, je fais un des meilleurs chronos français des 10 dernières années aussi. Donc même si on ne parle pas trop de chronos, clairement, j'ai quand même fait une grosse course. Donc oui, Courtenay...
Elle m'a fait 7e au scratch cette année-là.
Cette année-là, elle avait fait 7e. Ouais, ouais, wow. Elle avait fait une grosse, grosse course. Donc oui, c'est sûr que deuxième derrière Courtenay, pour moi, c'était, bah, de toute façon, c'était validé de faire deuxième.
Dans un instant, on va passer à la séance avec tous tes conseils yoga. Mais Johan, toi qui n'es pas un spécialiste trail, est-ce que dans toutes les courses qu'on a évoquées, l'UTMB, la Hard Rock, la Diagonale des Fous, est-ce qu'il y a une course qui te parle plus qu'une autre? Est-ce que pour toi, il y a quelque chose qui est plus prestigieux?
Ah, bonne question ça.
Ah, tu vois,
mais je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la Réunion. Je crois que la Diagonale des Fous.
Tu vas l'amener, Camille. Côté... C'est bon.
C'est quand même le côté mythique, ouais. Ouais, ouais. C'est le truc. Autant la Hard Rock dans le Colorado. Ça me parle, mais tu vois, ça me fait pas rêver. Mmh. Autant, avec tout ce qu'on voit autour de la Diag et la folie que ça a à La Réunion, et comme elle l'a dit, c'est la meilleure façon de découvrir l'île. Mmh. Ouais, c'est vraiment le truc qui me fait le plus rêver, moi.
D'accord, très bien.
Donc, ce qui n'est pas négligeable pour toi, c'est que ça arrive sur une piste d'athlétisme.
Et voilà.
S'il faut terminer un dernier 200 au sprint, normalement je peux.
Exactement, tu peux
mais
le faire.
Mais il faut que j'arrive sur la piste.
Même un dernier 400, tu peux l'envoyer en 56 secondes, c'est ce que tu as fait au record du monde, Johan. Oh, il faut celui-ci.
Mais bon, ça serait là, beau. Ça sera pas très utile.
Voilà, très bien. Mais de toute façon, tu peux arriver sur la piste d'athlétisme en bonne forme, mais surtout, il faut apprendre à respirer.
Allez. RMC, la séance.
Alors Johan, le chien tête en bas, la cigogne, le sphinx, voilà. Non, t'en fais pas, je suis pas encore devenu complètement zinzin, vous écoutez toujours RMC Running, on n'est pas encore au zéro, mais c'est noms d'animaux sont surtout des postures de yoga très connues. On l'a dit, Camille, tu es professeur de yoga et tu viens même d'animer une masterclass yoga et sport de haut niveau à Paris. Tu possèdes même un DU en micronutrition et tu vas nous expliquer tout de suite, si tu le veux bien, si tu veux bien notre professeur avec Johan, quels sont les bienfaits du yoga sur la course à pied et notamment le running en général.
Ouais, très belle description, j'aime beaucoup l'humour qu'on peut amener au yoga parce que c'est souvent, ça fait une bonne transition, c'est souvent vu le yoga comme un... comme une discipline très sérieuse, très stricte. Ouais. Il faut la faire au lever du soleil, dans telle direction. et du coup, où on est immobile sur son tapis, il faut respirer et je sais pas, pour avoir des pensées positives.
Avec une petite musique d'ambiance.
Voilà.
Tout ce que tu détestes, hein, Johan.
et du coup, c'est très connoté comme ça. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert le yoga en étant blessée à La Réunion.
Okay.
Avec tous ces a priori-là, c'est-à-dire oh, « c'est pas fait pour moi, je suis trop raide, de toute façon, ça va pas m'aller ». Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas négligeable de faire un peu de mobilité, d'apprendre un petit peu à respirer, d'apprendre à se poser sur son tapis. Et que si c'était bien amené et bien adapté aux coureurs à pied et aux sportifs en général, ben, c'était hyper intéressant en fait, et hyper complémentaire. Parce que si on parle vraiment de course à pied, c'est que la course à pied, ça enraidit quoi qu'il arrive. On a beau courir depuis des années... sans s'être blessé, on s'enraidit via plein de phénomènes en fait qu'implique la course à pied, avec les chocs, et puis un mouvement très très répétitif. Ouais. Et en fait, plus on va courir sur route et moins le mouvement va être varié, parce qu'en fait, nous en trail, on a quand même des montées, des descentes, donc on utilise quand même des muscles différents. Sur un marathon, c'est toujours les mêmes choses qui travaillent, donc on s'enraidit encore plus. Et c'est vrai que juste de retrouver ces amplitudes articulaires, je dirais, là, c'est la kiné qui parle. Et en fait, c'est aussi comme ça que je me suis rendu compte. C'est plus d'ailleurs par mon métier de kiné que j'ai exploré que le yoga, en fait, c'était... j'avais plein de coureurs à pied blessés, parce qu'il faut savoir que tout coureur à pied qui est digne d'un coureur à pied se blesse.
Oui, c'est des bons patients, ça.
Exactement, ça a rempli les cabinets, surtout post-Covid, là. Et du coup, je me suis rendu compte que pour autonomiser un petit peu les coureurs et puis les amener à un petit peu plus d'équilibre dans leur mobilité, dans leur souplesse, dans leur manière de s'entraîner aussi, parce qu'en fait, des fois, voilà, au lieu de faire, j'ai n'importe quoi, mais une heure de course à pied, je leur disais, là, va faire 40 minutes et puis après, tu t'étires, tu te fais 10 minutes de yoga, ou je leur montrais des mouvements. Et en fait, je trouve que c'est très... C'est une discipline qui englobe vraiment plein de choses. Donc souvent, je leur donnais des étirements, puis je leur montrais un exercice de respiration pour des gens qui avaient, je sais pas, une douleur au psoas, là, le muscle qu'on a dans les hanches, qui sont très utiles en
course. C'est ça l'avantage numéro un du yoga, c'est travailler sur sa respiration.
En fait, c'est coupler les étirements avec la respiration.
Ok.
C'est vraiment la base du yoga. On pourrait dire je fais de la mobilité, mais en fait, moi, je trouve ça vraiment bête de pas dire je fais du yoga, parce que si tu respires pas dans ta mobilité, pour moi, ça n'a aucun sens en fait. Et puis, à côté de ça, tu travailles tes mobilités, tu travailles aussi le renforcement des muscles profonds, tu travailles des étirements s'il y a besoin sur des muscles très raides suite à des vraies blessures ou des chirurgies ou des choses comme ça. Tu travailles ton équilibre, tu travailles la respiration, la manière de se poser aussi sur un sport où clairement on court après le temps tout le temps, on court après on sait pas trop quoi. et du coup, je trouve que c'est un bon équilibre de se dire ok, là en fait, je peux prendre 2 minutes dans ma journée pour me poser. Alors certains vont le faire d'une manière complètement différente, sans vraiment savoir que... Des fois qu'ils font du yoga parce qu'ils sont quand même sur un tapis en train de faire de la mobilité, sans leur téléphone, un peu en dehors de tout ce qui peut réguler leur journée. Et voilà, et en fait, j'ai vraiment envie d'amener cette discipline-là qui est très complète, au lieu d'aller faire... il y en a qui me disent « là, j'ai séance de sophro, là, j'ai séance de respiration avec un tel, après, je vais faire mon renforcement musculaire ». Alors, je ne dis pas du tout que ça va remplacer une séance de muscu, mais souvent, on a exercice de mobilité, des choses comme ça. Donc, je trouve que c'est très complémentaire. Et puis, dans tous les sports, ça matche bien quand même, et surtout chez les jeunes, parce que je trouve que le sport de haut niveau, dans tout ce qui va être stress, des compétitions, enchaîner les saisons... Et gérer une carrière, c'est pas forcément facile. Il y en a beaucoup qui se crament d'entrée. Et je trouve que, je dis pas qu'il y a que le yoga, mais je trouve que ça amène un peu de recul. Enfin, tous les jeunes que j'ai eus, notamment dans la Fédération française de cyclisme, où j'ai fait des stages avec eux. J'ai été aussi kiné dans le rugby, où j'avais commencé à enseigner là-dedans. Tous, ils m'ont dit... alors ils n'ont pas retenu du tout tout le nom des postures que tu as nommées, c'est pas du tout ça l'idée, mais ils ont retenu une petite chose, ou un petit exercice de respiration avant leur compétition, ou un petit truc avant même les jeunes, leurs examens, hein, tout simplement, parce qu'il faut continuer à gérer les études et le sport. Et je me dis, ça en fait, ça va te suivre toute ta carrière, et ça, je trouve ça génial.
Eh ben, professeur Camille, tu as été parfaite. Merci infiniment. Johan, t'as tout écouté, c'est bon ?
Je vais m'y remettre.
Oui, non, tu vas t'y mettre surtout. Tu vas pas t'y remettre, hein, Johan, je te connais.
Si, j'avais fait une séance une fois.
Ah, d'accord, c'est bien. Bon, bah Camille, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. On te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière, pour la suite de ta saison et forcément cette course qu'il y a aux États-Unis. Et puis, Johan, très rapidement, on va te retrouver avec Benoît Boutron, à qui on souhaite encore un très joyeux anniversaire, forcément, ton padawan, ton athlète. Et puis, nous, de toute façon, on se tient au courant. Chaque semaine, vous retrouvez des épisodes hors série, des épisodes inédits. Camille, encore merci. Bonne course aux États-Unis.
Merci à vous. Merci pour l'accueil.
Avec grand plaisir. Et puis, comme le dit Benoît, quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer.